Et sur ce, nous, on va plutôt se tourner vers une autre façon de se déplacer quand on a un handicap. On va parler d'histoire des chiens guides avec notre chroniqueur historique, François Beauregard. Bonjour, François.
Bonjour, Christiane. Ça va bien?
Ça va bien, toi?
Ça va très bien, merci.
Alors, oui, vas-y.
Aujourd'hui, on va parler des chiens guides. Après le transport adapté, là, c'est une autre technique de mobilité.
Voilà.
Et parce que ça fait longtemps qu'il y a une histoire entre les humains et les chiens. On dit le meilleur ami de l'homme. Hein? Alors,
oui, depuis longtemps.
Exact. Ça fait 50 000 ans que les chiens sont domestiqués. Et plus particulièrement, en recherchant les traces des premières utilisations du chien guide, dans les ruines de Pompéi, à Herculanum, on retrouve une fresque où on voit un aveugle qui tient un chien en laisse pour l'aider à s'y retrouver. Et un peu plus près de nous, on avance dans le temps, au 12e siècle, il y a à la fois en Chine et dans des textes monastiques irlandais, on voit des aveugles avec leurs chiens. L'anglais Gainsborough, peintre du 18e, a une œuvre qui s'appelle Blind Man on the Bridge, puis l'aveugle sur le pont, bien, il y a un chien aussi, il y a un chien guide. Alors, l'habitude de faire confiance à un chien pour une personne handicapée visuelle, là, c'est millénaire et il y a cette complicité-là qui est naturellement établie.
Et quand on parle de plus entraîner des chiens pour être guide?
Ah ouais, là, c'est sûr, parce que c'est peut-être qu'au début, les chiens, ils voulaient bien, là, mais c'est pas l'entraînement qu'on connaît aujourd'hui, ça pourrait peut-être être chaotique. Alors, à l'hôpital ophtalmologique des 15-20 à Paris, au cours du 18e siècle, on commence plus systématiquement à entraîner des chiens guides pour les aveugles. Et en Autriche, au Blinden-Herzigung Institut de Vienne, vers 1819, le docteur Johann Wilhelm Klein écrit un manuel décrivant les techniques d'entraînement pour les chiens guides, comment arriver à créer le bon rapport et avoir une confiance mutuelle. Même que le docteur Klein décrit des types de harnais. Qui peuvent être utilisés, qui sont étrangement semblables aux harnais, qui sont déjà comme les harnais d'aujourd'hui, avec une tige puis une poignée qui ressemble pas mal à la poignée qu'on a aujourd'hui. Et cet usage-là ne sera pas répandu tout de suite. On va continuer à avoir souvent des laisses et une canne de l'autre main. Mais déjà, il y a comme une forme plus systématique d'entraînement. Donc, au 19e siècle, surtout dans les pays germanophones, par le docteur Klein, et ça va commencer à être reconnu comme étant une aide pour les personnes handicapées visuelles, même que le Parlement britannique exempte des chiens guides de taxes ou de licences pour avoir leur médaille.
Ah oui?
Alors, plus loin,
c'est ça. Quand est-ce que ça commence à se répandre davantage?
Comme beaucoup d'autres choses qui ont rapport aux soins des personnes aveugles, c'est souvent suite à des conflits armés où le pays, accueille de nombreux militaires qui ont été malheureusement escroqués ou rendus aveugles à cause des combats. C'est la Croix-Rouge allemande qui commence à dresser des chiens de façon vraiment systématique au cours de la Première Guerre mondiale. C'est le docteur Gerhard Stalling qui, en 1916, à Oldenburg, va fonder la première école de chiens guides, vraiment là, qui sont spécialisés pour aider les militaires, les soldats allemands qui reviennent du front. Et ces écoles-là vont se multiplier là, et ils sont jusqu'à partout en Allemagne. En fait, donc, le chien guide, comme on le connaît aujourd'hui, est une invention allemande où c'est instauré de cette façon-là. Et au cours des années 20, il existe plusieurs écoles de chien guide en Allemagne. Et une Américaine, Mme Dorothy Harrison Eustace, qui est une Américaine très fortunée, philanthrope et dont le mari a des intérêts dans le domaine fermier. Son mari, donc, a des fermes d'élevage et pour trouver les meilleures races de vaches en Suisse. Et ça amène Mme Eustace à aller en Suisse, où elle commence à faire des voyages et est intéressée aux chiens guides pour les personnes aveugles. Elle va en Allemagne, à Potsdam, dans une école où déjà on dresse 100 chiens à la fois. Donc, c'est vraiment une grande entreprise. Madame
donc, Justetti, elle ramène cette idée-là aux États-Unis.
Oui, exact. Elle est emballée par ce qu'elle voit. Elle ramène ça aux États-Unis. Elle écrit un article dans la presse, dans les journaux pour vanter l'utilité d'un chien guide pour une personne handicapée visuelle. Elle amène même un Américain aveugle, M. Frank Morris, et elle l'amène ensuite. Elle lui donne un chien guide, voir comment ça se passe. Et Mme Harrison va fonder une institution qui s'appelle The Seeing Eye, l'œil qui voit, qui est une école de chien guide. Elle va fonder ça en 1929 et ça va se répandre par la suite. Et ils vont là aussi entraîner là, des centaines de chiens par année. Depuis ce temps-là, bien évidemment, ça s'est répandu au Québec. On connaît Mira,
oui,
on connaît d'autres écoles qui existent en Amérique du Nord. Et maintenant, un chien guide, là, c'est plus un truc d'exception. Là. Ça devrait faire partie du paysage urbain là, dans l'esprit de tout le monde.
Oui, surtout quand il s'agit des laissés-entrer.
Oui, les laissés-entrer. on entend de temps en temps des histoires là, vraiment navrantes. Soit des gens qui veulent réserver dans un hôtel, qui veulent rentrer dans un restaurant, dans un magasin, dans un taxi, dans un Costco. Moi, on en entend là.
Oui, malheureusement.
Assez souvent là.
Bon. Pour revenir au côté plus histoire, évidemment, là, comme dans toutes les histoires qui impliquent des chiens, des animaux, il doit avoir là quelques histoires là, qui feraient des bons films, là.
Des belles histoires
de bravoure.
Oui, ouais, voilà, des belles histoires. Ben, le 11 septembre, quand il y a eu les attentats au World Trade Center à New York, il y a Michael Hinkson qui travaillait dans une tour. Il était au 78e étage d'une des tours qui a implosé avec son chien guide, hein, une belle labrador. Et le chien l'a aidé à négocier 78 étages de sortie de secours. Puis c'était pas le pique-nique, là, parce qu'on pouvait imaginer la panique, les gens qui se bousculaient, la poussière, le bruit, ainsi de suite. Là. C'était un environnement là, chaotique. Là. Puis, le chien, la chienne de M. Hinkson, là, Roselle, de son nom, elle a fait un travail superbe, puis elle l'a amené jusqu'au trottoir, tout juste avant que la tour ne s'écroule. Alors, elle lui a littéralement sauvé la vie, là, et dans des conditions inimaginables, là. Même pour des gens qui pouvaient le faire en utilisant leurs deux yeux, là, ça ne devait déjà pas être tatarque.
C'est en effet une histoire digne d'un film.
Oui, voilà, on pourrait faire un film là-dessus.
On pourrait y penser. On va déposer
Roselle,
le scénario.
Oui, voilà.
Et est-ce qu'on pourrait penser qu'un jour, il y aurait d'autres animaux qui pourraient être utilisés?
Il existe d'autres animaux, et ça, c'est un peu rigolo, parce que peut-être qu'au Québec, ça n'a pas vraiment d'application. Il existe dans le sud des États-Unis des écoles de pony guides.
Oh.
Alors, on a des petits chevaux qu'on peut dresser pour servir de guide. C'est sûr, évidemment, un poney, dans le manuel d'emploi, c'est marqué qu'on le garde dehors, hein, on ne le met pas dans les maisons.
Bien, c'est là que c'est plus compliqué.
C'est plus compliqué. Mais si vous avez un terrain assez grand, il peut tondre le gazon parce que finalement, lui, il faut un pâturage.
Hein, ah, ben c'est...
Et les chiens ont leur qualité, mais les petits chevaux, les poneys guides, d'abord, ils vivent près de 30 ans. Alors, c'est une vie utile plus longue que les chiens guides. Ils ont une vision périphérique extraordinaire, hein, parce que chacun des deux yeux d'un cheval sur une tête chevaline sont vraiment de chaque côté d'un énorme museau. Alors, les yeux sont tournés vers deux, presque dans des directions opposées, ce qui fait que les poneys ont une vision de presque 350 degrés de vision périphérique. Là.
Mais malheureusement, c'est beaucoup plus compliqué si on vit dans un 3,5 sur le plateau.
Au Québec, là, c'est peut-être pas pratique. Mais il y a effectivement quelques écoles de pony guides dans le sud des États-Unis, parce que là-bas, le climat le permet. Puis on peut garder son poney dans le jardin en arrière. Mais c'est sûr qu'à Montréal ou ailleurs en ville,
c'est plus compliqué.
Le poney au balcon au troisième, là, c'est pas généreux pour le poney et pour personne.
Alors, François Beauregard, merci beaucoup pour... on en a vraiment appris sur l'origine, et que ça remontait à beaucoup plus loin que ce à quoi j'aurais spontanément pensé.
Oui, oui, oui.
Alors, François, on se dit à bientôt.
Oui, à bientôt.
À bientôt. Au revoir.